BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr et avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble maintenant, vous le savez, pendant une heure pour faire passer son entretien à une personnalité. Bonjour Vincent.
Bonjour Edwige.
Vous êtes directeur de la publication de Challenge. Et puis notre invité, c'est un grand industriel aujourd'hui, c'est Christopher Guérin, le patron de Nexans.
Oui, merci Edwige et bonjour Christopher Guérin.
Bonjour.
Donc,
Christopher.
Vous êtes à la tête de Nexans. Nexans, c'est une grande entreprise du monde du câble. Et donc, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires dans 42 pays, 28 000 collaborateurs, dont 3 000 en Ukraine, vous nous disiez, parce que ça semble être important pour vous. Cette interview, je vous le rappelle, elle sera bien entendu sur le print de Challenge, mais aussi sur les sites de BFM Business et de Challenge. Et puis, vous pouvez la retrouver à la télévision le week-end sur BFM Business.
Absolument, le week-end prochain. Alors, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je vous rappelle, des questions d'actualité, il y en a beaucoup. Des questions business. La deuxième partie, on ira sur le campus, il y aura un micro-trottoir. C'est quoi Nexans? C'est quoi les câbles? C'est quoi la transition écologique? Et puis après, il y aura des questions de jeunes HEC. Parce que je dis des jeunes HEC, c'est des alumni. Mais vous verrez, ils sont assez jeunes, ce qui est assez révélateur comme quoi votre métier, la transition écologique, ça intéresse beaucoup les jeunes. Tout de suite, les questions d'actu.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Première question, Christopher Guérin, un peu évidente. Il y a combien de milliers de kilomètres de câbles, notamment de câbles sous-marins?
C'est une question un peu piège.
Je la sais colle.
Non, en télécom, il y a... Ce qui est intéressant dans le secteur du télécom, vous avez 5 millions de kilomètres de câbles qui ont été posés, mais il n'y a que seulement 1 million de kilomètres qui sont actifs dans le secteur du télécom. Et vous êtes certainement autour de 500 000 km sur le domaine de l'énergie. Et là, par contre, c'est en très forte expansion sur la partie énergétique.
Et comment ils font-ils comment faites-vous pour les protéger? On s'en souvient, c'était un gazoduc, le gazoduc de Nord Stream, la mer Baltique. Donc, il y a eu un attentat. On ne sait pas très bien du reste qui a fait ça. Mais comment fait-on pour les protéger, ces câbles? Parce qu'il suffit que quelqu'un aille sous la mer avec une pince et hop, ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus de télécom.
Oh, ça va être, ça non, va être une grosse pince.
Oui, une grosse pince,
parce
si
que
vous
voulez. Alors bien sûr, sur la fibre optique, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, sur les câbles d'énergie, c'est quand même des câbles avec un diamètre assez important. Alors, par contre, on insère de la fibre optique au sein des câbles d'énergie, justement pour avoir un système de monitoring qui nous assure qu'il y a toujours le flux continu d'électricité qui passe par le câble et qu'il n'y a pas de rupture. Donc, dès qu'il y a rupture, on sait exactement où la géolocaliser. Et bien sûr, chaque nation peut intervenir là où il y a un point de contact. Ça va être un vrai sujet parce qu'on voit que la Commission européenne est en train d'investir massivement justement pour interconnecter l'Afrique et le Moyen-Orient avec l'Europe. Parce qu'on essaye de trouver une alternative aux pipelines de gaz provenant de Russie. Et notamment à travers les câbles sous-marins qui vont aller chercher cette énergie verte d'Afrique et le Moyen-Orient et l'importer en Europe. Donc il y a énormément de commandes à venir dans ce secteur.
Et la question de sécurité, c'est quand même pour vous, ça doit être un des points cruciaux, non?
C'est surtout pour nos clients, oui, ça va être un point crucial. Donc ils vont rajouter beaucoup, beaucoup de systèmes de capteurs pour intervenir au cas où. Bon, après, c'est, une fois de plus, pour intervenir sur un câble énergétique, c'est assez compliqué.
Alors, vous nous le disiez, Christopher Guérin, le marché de l'énergie est formidable. On sait que, par exemple, en France, la production d'électricité doit doubler d'ici 2050. C'est un rêve quand on fait des câbles.
Oui, surtout quand vous savez, nous, on est...
La fève éclairée.
Oui, c'est la fève électricité. Nexans est né en 1879. Donc, en fait, on a sorti les câbles pour supporter Edison, Tesla, Westinghouse, Benjamin Franklin, tous ces pionniers d'électricité qui ont besoin des câbles pour conduire l'électricité. Et il n'y a pas de menace technologique pour éviter le câble. Il n'y aura pas l'électricité par onde Wi-Fi. Donc, en effet, plus de consommation d'électricité, plus de consommation de câbles. Mais surtout, plus important pour la planète, c'est que l'électrification est la voie la plus rapide à la décarbonation de la planète.
Beaucoup de questions, vous verrez, au cours de cet entretien HEC autour de la transition écologique, la COP28. Justement, multiplier les éoliennes en mer par 10 d'ici 2035, ça vous paraît possible, crédible?
Je pense que... Là, j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Toutes les nations se réveillent en même temps. La problématique, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on klaxonne et on fonce dans le mur. Donc là, tout le monde se réveille, tout le monde est en train d'engager énormément d'investissements. J'ai juste peur d'un tout en même temps. Les chaînes logistiques sont peu organisées encore pour des mouvements massifs. Vous regardez, l'Europe a dit que l'Europe allait installer non plus 90 gigawatts de puissance de ferme éolienne en mer, mais 110 à échelle 2030. Les États-Unis ont dit que ça sera plus 30, mais ça sera 50. Et la Chine va passer de 50 à 70. Donc l'ambition va plus vite que la capacité à suivre. Et puis, il y a un gros problème sur la partie extractive, quoi, les matières premières.
Donc, ça, on va y revenir. Mais donc, c'est possible ou impossible ?
Écoutez, moi, je suis de nature optimiste. C'est possible, mais je pense qu'il y aura du retard.
Ouais. Il y aura du retard. Il y a juste une petite question de Béotien. Quand on voit derrière vous ces champs d'éoliennes en mer, on se dit, ces câbles sous-marins, est-ce qu'en fait, il n'y a pas des risques aussi de perte en ligne ? Ou est-ce que l'énergie passe parfaitement et arrive là où elle doit être distribuée exactement avec la même puissance que depuis l'éolienne qui sont derrière vous?
Non, sur, parce qu'on est habitué, vous savez...
Un peu comme les réseaux d'eau, vous voyez.
Oui, je comprends. On est habitué aux grandes interconnexions. C'est-à-dire que quand on va relier l'Afrique avec la Grèce ou l'Italie comme point d'entrée pour l'Europe, c'est 1000 km de longueur de câble. Donc, on est habitué à des très grandes longueurs. Les distances qu'on a actuellement des côtes avec les fermes éoliennes en mer, c'est à peu près 120 km des côtes. Donc, ce n'est pas très compliqué.
Et il n'y a pas de perte en ligne.
Mais la question un peu de Béotien ou de Béotienne, en l'occurrence, est-ce qu'il y aura assez de câbles et surtout, est-ce qu'il y aura assez de cuivre pour fabriquer ces câbles?
C'est tout l'enjeu. Il y aura toujours des câbles, les capacités câbles peuvent suivre la demande. Ce qu'il faut revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai souvent cette question-là. Il faut savoir quand même qu'on est à un moment historique. Les grandes vagues de l'infrastructure électrique, c'était d'abord 1890-1910. C'est là où on a bâti les premiers réseaux. En Europe, après, c'était l'après-guerre, 1950-1970. C'était 30 glorieuses de l'industrie électrique. Et en fait, entre deux, c'était des périodes de maintenance. Mais on re-rentre dans la troisième vague de l'infrastructure électrique. On est en train de basculer les énergies fossiles vers renouvelables. On est en train de renouveler tous les réseaux électriques du monde. L'Europe le réseau électrique a 50 ans d'âge en Europe, 45 ans d'âge aux États-Unis. Et il y a tout ce besoin qui va nous porter jusqu'en 2050. Donc on est dans l'histoire de l'électricité avec une infrastructure massive. La problématique, en effet, Edwige, ça va être la rareté des matières premières.
Ouais. Alors est-ce que c'est pour ça que vous êtes un fan de l'économie circulaire? Notamment de recycler le cuivre, qui n'est pas encore quelque chose de très évident, en tout cas en Europe, et comment recycler davantage?
Si on veut continuer à parler de croissance dans les 20 prochaines années, et j'espère que ça sera un sujet de la COP28, la croissance se fera par nos déchets. Ce n'est pas uniquement une problématique de cuivre. La croissance de demain, ce sont nos déchets d'aujourd'hui. Et c'est inévitable. On est dans une logique de l'ère d'abondance et de capitalisme extractif qui doit prendre fin. On va rentrer dans l'ère de la rareté. La rareté, c'est le recyclage. C'est inévitable. C'est inévitable pour continuer à développer ce qu'on est censé développer.
Est-ce que vous êtes partisan d'enterrer les câbles? On sait qu'il y a des villes, notamment à New York, qui refusent de faire de nouvelles tranchées pour enterrer les câbles. Est-ce que ça va être une problématique à laquelle vous allez être confronté?
Chaque nation, vous avez des câbles aériens, vous en avez beaucoup, beaucoup en France. L'Allemagne a fait le choix d'enterrer ses câbles. Enterrer ses câbles, c'est quand même traverser des villes, des montagnes, des rivières et puis des villages.
Mais c'est plus beau.
C'est plus joli.
Pas. Pardon, pardonnez-moi. Mais...
Oui, alors qu'il soit enterré et qu'il soit aérien, aucun citoyen veut avoir son câble in his backyard, comme on dit aux États-Unis. À New York, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus creuser plus que ce qu'on a creusé. C'est déjà un gruyère. Vous avez des risques d'effondrement des sols assez importants. Et le problème, c'est que les tours sont de plus en plus hautes. Donc la consommation électrique par mètre carré est un gros enjeu. Donc à nous de repenser les câbles pour soutenir cette croissance électrique.
Vous êtes un patron qui pense au-delà de la simple stratégie de sa boîte. Vous pensez planète, vous avez écrit un livre. Et vous le dites parce que vous vous posez la question, est-ce que la croissance peut se conjuguer avec les exigences climatiques que l'on connaît maintenant?
C'est un peu comme beaucoup de mes clients, on est tous orientés dans le même sens. Je pose la notion de croissance. Je pense que la croissance, elle est peu qualifiée de manière générale.
Est-ce qu'on parle de quoi peu qualifiée?
C'est-à-dire dans sa définition, est-ce qu'on parle de croissance volumique, plus de volume, plus de tonnes consommées ou valeur? Est-ce qu'on parle de croissance verte ou non verte? Est-ce qu'on parle de croissance régénérative, faite de matières recyclées ou non? ou de matières primaires. Et tout le défi, c'est ce que je fais passer comme message aux analystes financiers qui me challenge énormément justement sur le fait qu'on ne donne pas de guidance, d'objectif de croissance. Et, tant qu'on ne la qualifie pas, précisément, je ne répondrai pas à cette question.
Christopher Guérin, est-ce que vous vous intéressez aussi au marché des bornes de recharge de batteries?
Ah oui,
ouais.
De véhicules?
Oui.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Est-ce que vous câblez d'où à où?
Ah ben, en fait, c'est des extensions de réseau. Par exemple, en France, il va falloir poser à peu près 400 000 bornes dans les prochaines années. Bon, bien sûr, dans les rues, c'est un peu moins complexe que de descendre dans les parkings, hein, parce que c'est des gros câbles ouais. Moyenne tension, donc c'est beaucoup moins flexible qu'une fibre optique. Donc, et ça va augmenter la consommation.
C'est un business de combien pour vous?
Oh, c'est pas en volume, c'est pas un très gros business. Par contre, ça met encore plus de tension sur le réseau électrique, donc ça accélère son renouvellement.
Mmh. On pense tous par rapport à ce que des incendies de câbles qui ont existé, notamment à celui de Notre-Dame. Il se trouve que dans la restauration de Notre-Dame, vous avez offert des câbles ininflammables. Est-ce qu'effectivement, cela aurait empêché l'incendie de Notre-Dame s'ils avaient eu cette dernière génération de câbles?
Oui, enfin, Vincent Moffice, c'est simple, c'est qu'il y a un départ de feu toutes les 2 minutes dans le monde. Et 80% de ces départs de feu dans les bâtiments sont liés à des problématiques d'architecture électrique. Et la problématique qu'on a, notamment, vous savez, vous avez à peu près 60% des bâtiments qui ont été câblés dans les années 70 avec des câbles à base plastique. Une nouvelle construction, aujourd'hui, vous interdit ces câbles à base plastique. Pourquoi? Parce que le plastique est conducteur d'incendie. Et quand vous avez des câbles sur toutes les colonnes montantes, en fait, c'est justement le grand démon des pompiers, c'est que ces câbles propagent l'incendie partout. Donc maintenant, depuis 2016, il y a des normes qui sont imposées en Europe, qui arrivent également aux États-Unis, qui est d'utiliser des câbles avec des polymères différents qui résistent aux incendies, qui peuvent tenir 4 heures, c'est ce qu'on utilise pour les écoles et les hôpitaux, et qui sont non propagateurs de flammes. Donc, est-ce qu'on aurait pu éviter l'incendie Notre-Dame? Je ne pense pas, mais on aurait évité sa propagation à plus grande ampleur. C'est évident.
Eh bien, Christopher Guérin, nous allons se retrouver avec le brief de Bain dans un instant.
Si.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Retour dans l'entretien de Christopher Guérin. J'ai le plaisir d'introduire donc Sabine Attier. Vous êtes associée de Bain & Compagnie en charge de l'équipe énergie ressources naturelles de Bain. Et c'est vous qui allez faire le brief de Bain. Vous avez Christopher Guérin en face de vous. Quel est votre pitch?
Bonjour Sabine Attier.
Bonjour Edwige. Bonjour Vincent. Bonjour Christopher Guérin. Christopher, vous êtes connu et reconnu pour avoir réussi la transformation de Nexans en simplifiant drastiquement son portefeuille d'activités, notamment en supprimant près de 30% des références produits et près de 70% des clients en portefeuille. Vous êtes également connu pour avoir été parmi les premiers à déployer un modèle de performance intégré que vous appelez E3 et qui fait le lien entre économie, environnement et engagement des équipes. Ce qui donne, depuis votre nomination à la direction générale en 2018, un quasi doublement des marges, EBITDA, qui passe de 325 millions à 600 millions, l'amélioration des retours sur les capitaux employés de 9 à 21% et la multiplication par 5 des cash flows. Vous avez aussi défini un objectif de contribuer à la neutralité carbone en 2030. Après la réussite de ce chapitre de repositionnement, nous voyons 3 grands défis qui vous attendent. Le premier, à court terme, continuer à assurer la croissance de la rentabilité dans un contexte qui pourrait être un peu plus compliqué. Par exemple, avec les craintes sur le ralentissement du développement de l'éolien en mer. 2024 sera à ce titre un moment de vérité pour le groupe et la résilience de Nexans l'année prochaine permettra de démontrer au marché la robustesse des choix que vous avez faits, recentrage, premiumisation, en comparaison de vos concurrents, par exemple Prysmian. Le second défi à moyen terme, sortir du positionnement de fabricant pour devenir un fournisseur de solutions et de services et assurer la récurrence des marges. Enfin, et vous le mentionniez tout à l'heure, développer le recyclage des câbles. D'une part, pour sécuriser l'approvisionnement en cuivre, dans un contexte qui est de plus en plus tendu, et d'autre part, ça permettrait de mieux valoriser l'activité métallurgique, qui est l'un des actifs distinctifs du groupe. Mais la tâche semble immense quand on sait qu'en 2022, vous avez recyclé 20 000 tonnes de câbles et que ça ne représentait que 5% des approvisionnements nécessaires des usines. Et dans notre rapport de Bain & Compagnie en 2023 sur l'énergie et les ressources naturelles, on montrait qu'on aurait besoin de 1,5 fois plus de cuivre à 2030 pour tenir la trajectoire net zéro.
Alors, parmi tous ces défis, quelle est votre question, Sabine?
Eh bien, très simplement, électrifier nécessite toujours plus de câbles. comment faire pour que Nexans soit un facteur d'accélération de l'électrification et ainsi de la transition énergétique.
Merci de cette présentation. On ne se connaît pas, mais je pense que nos équipes seront ravies de cette introduction, car c'est un travail de toutes nos équipes. C'est vrai que c'est un vrai défi. Alors, il y a une forme de résignation, parce que quand vous passez de 17 000 clients à 4 000 clients, vous ne faites pas pour des logiques de volume ou de marge uniquement. Vous le faites d'abord pour réduire votre complexité. Et on a notre petit motto interne qui est « simplifier pour amplifier ». Donc, simplifier notre modèle économique pour amplifier notre impact. C'est vraiment... Ce qui nous drive tous les jours. Le choix des clients a été assez fin. Il a été pensé dans une lecture stratégique, l'électrification du monde. Dans une lecture financière, c'est obligé, parce que sinon, si je n'avais pas de profit, ma DLV, ma date limite de vente en tant que CEO serait très vite dépassée. Et bien sûr, dans une logique environnementale. Donc, avec un seul objectif, c'est qu'on peut continuer de croître notre rentabilité sans que ça soit au détriment de la partie environnementale. C'est pour ça que depuis 2019, notre empreinte environnementale a chuté d'un tiers, notamment grâce à mon produit et cette réduction de complexité. Donc, énormément de défis. Moi, je pense que l'année 2024, en effet, vous avez raison, ça va être une année un peu de basculant. Charnière, oui. Pourquoi ? Parce que l'économie allait bien jusque-là, donc pour beaucoup d'entreprises. Donc, ce que faisait Nexans était moins visible puisque l'économie était très positive. Et c'est ce que j'ai dit à mes équipes. Quand la récession va arriver, ça sera vraiment la preuve de l'heure de vérité pour Nexans, de montrer que ce que nous faisons est structurellement résilient et antifragile pour la logique de développement de l'entreprise. Le recyclage, ça va être le gros enjeu des 10 prochaines années. C'est inévitable. On voit que maintenant, c'est un facteur de choix pour nos clients. Il y a vraiment un scoring de la part des clients quand ils font des appels d'offres sur la capacité à recycler ou à porter des éléments à bas carbone. Aujourd'hui, tous nos câbles qui sont faits d'aluminium sont utilisent de l'aluminium bas carbone. On a aussi un défi qu'on essaie de dupliquer, qui a été réussi en Suède. On fait du 70-100. Un produit qui est fait de 70% de matières recyclées, qui sont à 100% recyclables à l'avenir. Donc ça, l'objectif, c'est de le développer sur l'ensemble des pays. Donc je suis assez confiant. Après, on a la chance d'être sur des marchés d'énergie verte.
On y reviendra, Christopher, sur la suite, effectivement, de la partie business. Donc on a quelques minutes pour cela maintenant.
D'accord.
Merci, Sabine Attier, d'avoir été avec nous, associée donc chez Bain & Compagnie. Là, les questions business.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Alors, Christopher Guérin, moi, j'aimerais bien revenir sur ce qu'on évoquait effectivement avec Bain, qui est ce miracle. On voit ça très, très peu dans des entreprises. On gagne davantage d'argent avec moins de clients. Alors, comment vous y êtes arrivé? Et puis surtout, du côté des clients, comment prennent-ils cette forme de déréférencement à l'envers?
Oui, je pense qu'en fait, les entreprises européennes n'ont pas globalement pas assez travaillé, contrairement à certaines sociétés américaines. C'est ce qu'on appelle le coût de complexité. Je vais vous le faire simplement. Vous regardez le lancement d'un nouvel iPhone de chez Apple. Tout le monde voit le côté mercantile. On lance un nouvel iPhone, mais on arrête les familles précédentes. Si vous avez un œil industriel, en fait, vous voyez qu'ils n'empilent pas en production la famille iPhone 13, 14, 15, et à chaque fois, ils font table rase d'une famille, ils l'enlèvent pour en mettre une nouvelle. Ça veut dire que leur coût de complexité reste constant. En fait, depuis 20-30 ans, dans cette logique de l'abondance, du toujours plus de volume, du toujours plus de clients, de toujours plus de produits, les entreprises ne calculent pas cette notion de complexité. Et en fait, ce que nous, on a mis en équation financière, c'est que moins égale plus. Vous densifiez vos productions sur moins de clients et sur moins de produits, vous libérez beaucoup plus de cash. Et c'est ce qui s'est passé chez Nexans.
Mais alors, comment c'est fait là? Comment est-ce que vous avez fait la sélection en disant vous restez notre client, mais à vous, par contre, vous dégagez?
On a vu les professionnels du secteur de l'assurance et de la banque qui, eux, font du profilage de clients tous les jours. Quand vous allez faire un emprunt bancaire, vous êtes profilé, on vous pose une vingtaine de questions pour voir un peu si vous allez devenir un client potentiellement stratégique ou pas. On a pris cette technique du monde assurantiel, du profilage de clients, on se l'a appliqué à nous-mêmes. Voilà. Oui, ça ne peut pas être aussi simple avec deux indicateurs. Il y en a une trentaine et c'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas se tromper. Parce que sinon, ça va vite dans le mauvais sens.
J'imagine que ce profilage fait plutôt le bonheur de vos concurrents. Et d'ailleurs, quels sont-ils, vos concurrents?
Un petit peu partout, c'est un marché assez fragmenté. On a un grand concurrent italien qui s'appelle Prismian. Mais après, c'est beaucoup de locaux. beaucoup de sociétés familiales qui vont être un peu plus en difficulté d'ailleurs dans les prochaines années, justement par rapport à l'accès à la matière première qui va devenir problématique.
Vous êtes le leader mondial.
On est le numéro 2.
Qui est le premier ?
Prispion, notre concurrent italien. Mais la notion de taille et de part de marché, ce ne sont pas des indicateurs de performance chez Nexans. Donc, on se focalise sur la valeur et la sélectivité des bons clients et des bons produits.
Mais moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est si les carnets de commandes sont pleins, on veut dire construisez d'autres usines et fournissez plus de câbles, non ? Est-ce qu'il n'y a pas une logique comme ça ?
Parce que ce qu'on a vu, vous savez, Nexans n'a pas eu que des très belles années.
Hein. Non,
quand j'ai pris la direction de Nexans en 2018, on était en record de croissance organique à plus 5%. Double avertissement financier en moins de 4 mois.
Oui, c'est le syndrome Alstom, quoi.
Je ne vais pas commenter Alstom, mais plus de volume ne veut pas dire plus de profit. Donc, on a fait un recentrage sur la sélectivité. Faites attention parce que vous avez des clients bons cholestérol, bons pour le développement de votre entreprise, puis d'autres clients et marchés qui sont mauvais cholestérol.
Il reste que moi, ça me fait penser un petit peu aux commandes qu'il y a dans l'industrie aéronautique, où on voit aujourd'hui des compagnies qui font des méga-commandes et qui font des méga-commandes en étant livrées à la fin des années 27, 28, etc. Et vous disiez vous-même que sur certaines variétés de câbles, vos usines étaient pleines jusqu'en 2027. Ça paraît quand même quelque chose de phénoménal, très unique.
Alors, ce qui est plutôt très bon signe, parce que c'est vraiment sur les câbles haute tension, donc c'est les câbles pour connecter les fermes éoliennes en mer et pour interconnecter les régions que j'ai évoquées au début de cet entretien. Vous prenez les trois grands acteurs européens du marché, le carnet moyen de cumuler de ces trois acteurs entre 2012 et 2019 était de 5 milliards. On va clore l'année 2023 à 30 milliards. Donc, on fait fois 6. Mais ça, c'est le baromètre que la transition énergétique est en route à travers le monde.
Vous avez combien d'usines en France ?
On en a une dizaine.
Oui. Et ailleurs ?
On est au total 70 usines sur 42 pays.
Ouais. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, vous êtes 3000 personnes en Ukraine.
Oui.
Vous avez des usines en Ukraine ?
Oui, on a trois usines en Ukraine.
Et elles tournent en ce moment ?
Oui, elles tournent maintenant. On a de la chance quand même d'être du côté de Lviv. On est sur l'ouest de l'Ukraine. Donc d'ailleurs, on a souffert de bombardements. Mais la problématique qu'on a, c'est de faire tourner des usines en temps de guerre. On n'est pas formés, nous, pour gérer ça. C'est-à-dire que quand des grands clients comme BMW et Mercedes vous demandent de récupérer votre retard et qu'il faut tourner la nuit, et que vous prenez la décision de tourner la nuit, mais donc d'opacifier tous les ouvrants pour pas que les drones russes repèrent des points lumineux la nuit pour les bombarder, c'est compliqué. Mais le plus compliqué, ce sont pour les équipes qui sont sur place.
Alors, on a noté que vous aviez à votre capitale BPI France. Généralement, c'est à la fois bon signe parce que c'est une espérance de croissance, mais c'est aussi quelque chose qui s'est passé à un moment peut-être difficile de l'entreprise. Comment s'est passée cette prise de participation et qu'accompagne-t-elle ?
Ça veut dire que vous êtes un fleuron français.
Quand vous regardez, on est un des derniers bastions français d'Alcatel. Moi, j'ai démarré avec Alcatel. On était fleuron français, 170 000 personnes. Et maintenant, Alcatel, on n'en parle plus. Une grande partie est partie chez Nokia. Il nous reste Alstom sur la partie ferroviaire. Il nous reste Nexans. Donc, en fait, BPI est à la fois sur Alstom et sur Nexans. Donc, il y a une forme de souveraineté française. Et puis, les discussions que vous connaissez bien Nicolas Dufour qu'on a, se portent énormément sur l'accès, justement, aux métaux, au cuivre. Ça va devenir un sujet de souveraineté pour la France, le recyclage du cuivre dans les prochaines années.
Et alors, vous avez parfois des expressions étonnantes. J'ai noté celle-ci, un ratio qui s'appelle retour par unité de carbone employée. Donc, c'est que vous mettez la transition énergétique au cœur même de vos process de production ?
Non, je suis pas un grand fan, en fait, de la multiplication des indicateurs qui émanent de l'Europe à l'heure actuelle. J'en avais parlé avec Edwige Chevrillon dans une interview passée. Aujourd'hui, l'ESG, c'est 1500 labels et 2000 indicateurs. Mmh. Et les labels, vous les collectionnez comme des magnets sur un frigo. C'est-à-dire que vous n'avez jamais le bon. Et le sujet pour nos équipes, qui sont étouffées quelque part, comme beaucoup d'entreprises, par cet amoncellement d'indicateurs... La CSRD, ça va être plus de 1200 indicateurs à remplir.
La CSRD, c'est la corporate governance qui va s'imposer à partir de 2024 dans l'ensemble des entreprises en France.
Exactement. Donc, en fait, l'objectif du modèle E3, qui est économie, environnement et engagement, c'est de trouver des indicateurs.
E3, c'est votre modèle à vous. Hein. Voilà. Ça, c'est pas celui de l'Union européenne.
Malheureusement. Mais c'est de trouver des indicateurs qui se parlent. Donc, en fait, un client aujourd'hui, il est à la fois noté sur ses retours sur capital employé, sur les aspects économiques, mais également sur retour sur carbone employé. Donc, on dit qu'un client platinum est platinum pour nous. À partir du moment où il nous élève économiquement, mais il va également dans le bon sens d'un point de vue environnemental. Et c'est ce qu'on calcule tous les jours.
Justement, c'est quoi la performance extra-financière pour vous chez Nexans? C'est quoi?
C'est tous les enjeux environnementaux et puis tous les enjeux sociaux. On voit très bien que cette réduction de complicité, ce moins de clients, ce moins de trop, a amélioré la productivité et puis l'engagement des collaborateurs et collaboratrices.
Vous pourriez construire une nouvelle usine, je reviens là-dessus, pardon, en France, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation de la France. C'est un thème cher à Nicolas Dufourcq de la BPI. Est-ce que vous y croyez?
Ah oui, bien sûr, j'y crois. Oui,
parce que. D'accord, enfin bon.
Non, mais bien sûr qu'on pourrait. Alors nous, on a la chance, c'est qu'on fait du local pour local. C'est-à-dire que quand on produit en France, c'est pour la France. Quand on produit en Chine, c'est pour la Chine. Il n'y a pas de phénomène de délocalisation. Bien sûr qu'on pourrait. Aujourd'hui, on voit que le niveau de qualification des employés français est très, très élevé par rapport à beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Et moi, la part main-d'œuvre sur le coût du CAP, c'est seulement 5%. Donc, et c'est surtout la qualité. Donc, ouais. C'est ce que je mettrais en œuvre.
Et pourquoi c'est local comme métier? Non, c'est bizarre. On a envie de dire un câble, c'est un câble. Donc, il peut être fabriqué en Chine et posé en France.
Enfin, quand on voit les énormes rouleaux qu'il y a sur certains camions, on se dit que ça doit quand même coûter un peu d'argent à transporter.
Un touret. Un touret.
C'est une voiture aussi, hein, une voiture.
Oui, mais parce que vous avez, globalement, vous avez à peu près 2000 câbleurs dans le monde, donc vous avez toujours une source locale disponible.
Ouais, c'est encore morcelé, comme métier.
Oui,
comme
et puis vous n'êtes jamais gagnant sur la délocalisation, parce que vous pouvez gagner sur la main-d'œuvre, mais vous perdrez sur la logistique.
Maintenant, place aux jeunes. On va partir sur le campus HEC, Christopher Guérin, et puis après, ça sera la question des alumni, qui sont vraiment, cette fois-ci, hein, très, très jeunes. À tout de suite.
BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Retour donc dans l'entretien HEC avec Christopher Guérin, le PDG de Nexans. Christopher, on va passer encore une demi-heure ensemble, mais on va faire un petit détour d'abord par le campus HEC où on a demandé aux étudiants ce qu'ils ressentaient quand ils entendaient le mot Nexans ou la transition. C'est un petit micro-trottoir très sympathique qui a été recueilli par Estelle Plaguet et Loan Gilbert.
Il y a un lampadaire derrière moi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui construisait les câbles électriques qu'il y a à l'intérieur?
Honnêtement, non.
Je dirais EDF, je sais à peu près comment ça se fabrique. Enfin, c'est pas une question qui me taraude tous les jours, pour être honnête.
On va parler de Christopher Guérin, qui est le CEO de Nexans. Est-ce que ça vous parle, Nexans?
Pas du tout. De nom, oui. Déjà entendu dans les échos, ce genre de choses, mais pas plus que ça.
Christopher Guérin, son CEO, qui fabrique du coup une grande partie des câbles électriques du monde, a pour ambition d'électrifier le futur d'ici 2030 et d'avoir une neutralité carbone d'ici 2030. Est-ce que vous pensez qu'écologie et électricité sont compatibles?
Oui, je crois que c'est la seule solution, parce qu'on est capable de produire de l'énergie assez décarbonée, surtout en France avec le nucléaire.
On a besoin d'électricité dans notre vie tous les jours, que ce soit pour le logement, pour la nourriture, etc. Donc on ne peut pas s'en passer. Donc forcément, il faut trouver une solution si on veut atteindre la neutralité carbone.
On le voit bien dans le terme transition énergétique, on ne cherche pas à s'en débarrasser, mais à trouver des modes d'électricité plus verts.
Est-ce que vous avez des idées pour se tourner vers une électricité plus verte dans le futur?
En production d'électricité, oui, je pense que c'est vraiment possible en diversifiant les sources. Et en ralentissant de plus en plus les énergies fossiles, mais il va falloir un mix énergétique à l'avenir, c'est sûr.
Il y a des modes de fabrication entre guillemets d'électricité qui sont en train d'être recherchés pour créer une électricité plus verte.
L'énergie solaire, pour des pays comme la France, c'est pas forcément l'idéal, surtout le solaire. Mais moi, par exemple, je viens de Tunisie et il y a beaucoup de soleil. Dans les pays un peu plus pauvres, c'est un peu plus compliqué d'installer ce genre de choses parce que c'est assez coûteux.
Aujourd'hui, si on peut, en tout cas, de manière à moyen terme, construire des EPR, ce serait pas mal pour pouvoir décarboner l'électricité et investir massivement dans les énergies renouvelables.
Et je crois que la loi de programmation énergétique du gouvernement, elle va exactement dans ce sens-là.
Diminuer notre consommation, éteindre beaucoup plus les lumières et juste les vitrines de magasins à Paris ou des choses comme ça. Je pense que l'idée aussi d'avoir une consommation plus faible, je pense que c'est pas assez relayé aujourd'hui.
Le CEO de Nexans a transformé son business model du coup, de son entreprise en modèle de pure player. Est-ce que cet anglicisme vous dit quelque chose?
Pas du tout. Est-ce que je devrais connaître ce mot?
C'est un anglicisme qu'on entend pour les banques. Après, en pure player, je sais pas.
Pure player qui signifie de mettre tout son marché en ligne, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie commerciale?
Moi, j'irais plus au niveau des... Enfin, pour les clients, avoir un commerce où on peut aller et voir les produits, etc. Même discuter avec les gens, c'est assez sympa et ça nous aide à acheter plus ou mieux.
Moi, en tant que génération Z et potentiellement future consommatrice, je me dis que ça pourrait être assez, ça pourrait quand même faciliter pas mal de choses. Et l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui est facture en général, c'est le genre de paperasse qui nous énerve un peu.
Moi, je trouve que le lien humain, c'est assez intéressant parce que ça permet de discuter, d'échanger. Aujourd'hui, on se tourne beaucoup avec le télétravail, avec Zoom, toutes ces réunions en ligne. Je trouve qu'on perd ce contact humain qui est important.
Bonjour, monsieur Guérin. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que électrifier le futur, c'est si efficace et est-ce que c'est vraiment la solution pour faire face à l'urgence climatique et écologique d'aujourd'hui?
Est-ce que vous êtes vraiment engagé parce que vous y croyez ou vous êtes engagé parce que c'est important pour votre business plan aujourd'hui?
Alors, il faudra revoir quelques cours, à mon avis, quand même, à HCC, sur ce que c'est qu'un pure player.
Oui.
Mais en revanche, intéressant, là, c'est comment ils vous ont interpellé, ces étudiants.
Oui, c'est intéressant. Alors, surtout que Nexans, on est dans le business B2B, donc on est un peu l'Intel inside du câble. Hein. C'est qu'on est un peu partout, mais on n'est pas visible. Bien sûr que l'électrification, enfin, il y avait plusieurs questions. L'électrification est la voie la plus rapide à la décarbonation. Le mix énergétique est fondamental. Il faut du solaire, il faut de l'éolienne en mer ou terrestre, et il faut du nucléaire.
Et est-ce que vous y croyez par opportunisme ou par intérêt?
Oui.
Par conviction, pardonnez-moi.
La question, c'est que moi, je suis au sein du vortex. C'est-à-dire qu'on est une société cotée. Si je ne règle pas la problématique économique, ils changeront de CEO très, très rapidement. Donc la question, ce qui me drive moi au quotidien, c'est de trouver une solution au sein du vortex qui équilibre la partie économique, parce qu'on ne va pas transformer les entreprises cotées en coopératives.
Mmh. Et qui soit réaliste.
Et qui soit réaliste, voilà. C'est surtout... ce défi de réalisme qui m'est cher.
On va passer maintenant aux questions des alumni. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de questions et notamment des jeunes entrepreneurs.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Tout de suite, la première question, c'est une question de Pauline Laravoir.
Bonjour, je m'appelle Pauline Laravoir, promo HEC 2018, issue du master SASI, Sustainability and Social Innovation, dont je suis aujourd'hui la directrice exécutive. Voici ma question pour vous aujourd'hui, monsieur Guérin. Je me demandais si vous aviez pu précisément et clairement identifier finalement les facteurs de réussite à la fois endogène et exogène, au-delà de votre apt leadership, qui vous ont permis de mettre en place le modèle de transformation Shift, ainsi que le modèle d'entreprise E3 basé sur l'économique, environnementale et engagement pour Nexans. Et à quel point est-ce que vous pensiez que ces méthodologies et ce modèle étaient finalement applicables à d'autres entreprises dans d'autres secteurs, notamment des entreprises de grande échelle comme Nexans.
Et vous avez 20 secondes pour répondre, hein, c'est ça? Non, vous inquiétez pas, souvent il y aura des questions qui vont revenir un peu sur ce que vous avez déjà dit, mais c'est fait partie de l'exercice.
Ah oui, alors déjà la volonté de mettre en place ce modèle, c'était la volonté de déciloter l'entreprise, parce que on regardait chaque fonction regarde ses indicateurs, on regarde l'économie d'un côté, l'environnement de l'autre, et puis l'objectif pour nous c'était de réunir. Est-ce que ce modèle est duplicable? Oui, il l'est. D'ailleurs, j'ai vu une société de conseil en services financiers qui l'a appliqué récemment. Ils se sont débarrassés de 30% de leur clientèle pour que les consultants passent plus de temps avec les clients les plus chers à l'entreprise pour ramener de la qualité plutôt que du transactionnel au quotidien. Donc oui, c'est duplicable.
Alors nous avons une deuxième question de Alfred Richard.
Alfred.
Bonjour Monsieur Guérin, enchanté. Alfred Richard, HEC Promo 2022, président et cofondateur de Nelson Mobility. Chez Nelson, on aide les entreprises à concrétiser leur passage à l'électrique pour leur flotte de véhicules. Aujourd'hui, ma question, elle est sur les enjeux de leadership et de décarbonation. Évidemment, on voit qu'il faut réussir à faire valoir un retour sur investissement sur ces enjeux de décarbonation. Et ma question est la suivante. À différents niveaux de prise de décision et de leadership, à quel point est-ce que vous êtes prêt à mettre la main à la poche pour concrétiser des premiers efforts de décarbonation? ou est-ce qu'il faut que je fasse valoir le bon retour sur investissement pour chacun des interlocuteurs?
Ça, c'est une bonne question. De manière générale, que ce soit nous ou nous avec nos clients, vous voyez que vous avez un bonus à plus 10%. C'est-à-dire que vous pouvez être entre plus 5 et plus 10% si vous apportez une offre décarbonée. Et ça, c'est une tendance de fond depuis 2 ans. Par contre, ce que je dirais à Alfred, c'est on est très, très sollicité tous les jours. Et on voit des entreprises, petites ou grandes, qui ne font que pousser leur offre et pousser leurs produits. Il y en a très, très peu qui prennent ce moment d'intelligence de dire quel est mon client en face, quel est son potentiel, dans quel sens il va et en quoi mon offre va lui apporter quelque chose. Et c'est pour ça qu'on rejette à peu près 80% des demandes de start-up, etc., parce qu'ils ne font pas cet effort d'apporter quelque chose de différenciant.
Et vous aviez quelque chose en commun avec lui, c'était cette idée de câbler vers les bornes de recharge. C'est un bon business pour lui et pour vous, ou c'est tellement compliqué avec le problème des copropriétés et tout ça que vous ne lui conseilleriez pas de persévérer?
Le câblage se fait par Enedis en France et par les grands utilities européens. Donc ça, c'est pas une problématique. Par contre, en effet, sur les stations de charge, aujourd'hui, il y a une très, très grande concurrence, à la fois sur le hardware et le software. Et donc, il faut se différencier.
Question maintenant de Lancelot Salomon.
Bonjour Christopher, je m'appelle Lancelot Salomon, je suis fondateur et CEO d'Instant, l'application de covoiturage instantané. Je suis de la promotion HEC 2022. Et ma question pour vous, c'est, nous aujourd'hui chez Instant, on a une petite équipe de 5 personnes. Qu'est-ce que c'est le quotidien lorsqu'on est CEO d'une grande équipe de 28 000 personnes?
C'est une bonne question. Écoute Lancelot, on va dire que nous qui sommes grands fans de la voile et Vendée Globe avec le sponsoring de Fabrice Amedeo, on va dire que toi, tu es au sein d'un IMOCA avec toute ton équipe sur le même bateau. Moi, j'ai plein de monocoques et multicoques qui navirent à travers les océans et je communique par radio. Donc, l'agilité, la rapidité d'action d'une start-up, moi, je ne l'ai pas au quotidien. Et justement, cette coordination, et puis quand je parle de monocoque, parfois, c'est des tankers, ça va beaucoup moins vite que des monocoques. C'est ce qui rend le quotidien très complexe. C'est-à-dire que quand on envoie une information, le temps qu'elle se diffuse dans l'entreprise et qu'elle ait une vraie empreinte, il se passe beaucoup de temps.
Juste, vous parliez de Fabrice Amedeo, qui était un ancien confrère qui est au Figaro. Comment s'est fait la rencontre avec Nexans et pourquoi il a su vous séduire comme skipper?
Pour son engagement planète, il a des capteurs pour aller regarder la densité du plastique dans les mers. Et puis on s'est rencontrés le 11 mars 2020, 2 jours avant la problématique Covid et le discours du président Macron sur « nous sommes en état de guerre ». J'étais sa dernière chance d'être son sponsor et je lui ai dit le 14 mars, on y va. Donc il était ravi.
Génial.
Alors donc nous avons une question.
Valentine.
De Valentine Japiot.
Bonjour, je m'appelle Valentine Japiot, je suis tout juste diplômée, H2023 et je suis consultante climat à Dakar. L'électrification va demander une quantité massive de cuivre pour laquelle le recyclage ne suffira pas. Donc jusqu'où aller dans l'extraction? Quels usages va-t-il falloir prioriser? Et pour qui? Faut-il mettre des objets intelligents partout? Et du coup, finalement, ma question est la suivante. Quel est le rôle que peut jouer une entreprise privée telle que Nexans dans ce discernement et dans, finalement, ce qui est des choix de société?
Valentine, c'est une bonne question. Donc d'abord, la consommation de cuivre dans le monde était 9 millions de tonnes en 1995. Aujourd'hui, on est à 22 millions de tonnes avec une capacité extractive à peu près de 23 millions de tonnes par an. La problématique, c'est que la transition énergétique nécessite encore plus de cuivre, encore plus d'aluminium. Donc, on va passer à 35 millions de tonnes en 2030. Et les capacités d'extraction vont être verrouillées parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans les mines. Et puis là, le cuivre se fait rare à 23 millions de tonnes. Donc, en fait, on va rentrer dans une ère assez de pénurie dans les prochaines années. Et c'est la bonne nouvelle. Nous allons passer de l'ère de l'abondance à l'ère de la rareté. Donc, la contrainte va forcer de passer d'un cuivre primaire à un cuivre secondaire recyclé. Et je pense que c'est quelque part une bonne nouvelle.
Vous êtes très présent en Afrique ou pas?
Au Maroc, surtout.
Au Maroc.
On est un grand leader au Maroc et en Côte d'Ivoire.
Une question maintenant de David Stabat.
Bonjour Chris. David Stabat, HEC Promo 2022, dirigeant de la société Core Chemicals et surtout ancien Nexans. L'un des objectifs du modèle E3 est l'atteinte d'une émission nette nulle en 2050. Un moyen retenu par Nexans permettant d'atteindre cet objectif consiste à l'intégration dans la fabrication du câble de matières premières recyclées, avec comme contrepartie une complexité technique et supply chain accrue, ainsi qu'un coût très souvent plus élevé que des matières vierges. Mes questions sont les suivantes. Vos clients finaux sont-ils prêts à payer ce surcoût et quels sont les secteurs et zones géographiques qui restent à convaincre? Ensuite, pensez-vous que des lois incitatives imposant un taux d'utilisation minimal de matières recyclées pourraient apparaître dans l'industrie du câble comme elles existent déjà dans d'autres secteurs comme le packaging ou à défaut des labels ESG spécifiques au câble? Merci.
Question pointue, on voit que c'est un ancien de Nexans.
Ouais, ouais. Oui, c'est vrai.
Et il faut peut-être que vous rappeliez, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui est votre modèle E3, E3, parce qu'on l'a dit en passant tout à l'heure.
Oui, donc le modèle E3, hein, c'est vraiment faire converger la priorité de l'économique, de l'environnement et l'engagement du social dans un tout. Et c'est comme ça qu'on note la performance de notre unité. Elles sont E3 compatibles ou E1 ou E2. Et l'objectif, c'est d'amener toutes les unités dans le bon sens. Où tout n'est pas régulé encore, notamment sur l'utilisation des plastiques recyclés et des matières recyclées dans le cuivre. Et c'est ce que j'expliquais en début d'entretien, hein, le 70-100 qu'on fait en Suède, qu'on va dupliquer sur l'ensemble des pays. Des produits faits à 70% de matières recyclées et à 100% recyclables, c'est notre objectif. On va annoncer des grands investissements sur le recyclage de cuivre. L'objectif pour nous, c'est d'aller absorber à peu près plus de 150 000 tonnes de déchets cuivre ou déchets cuivreux tous les ans pour réalimenter nos clients en câbles neufs, mais faits de matières recyclées. Donc on va dans le bon sens aujourd'hui. Et en tous les cas, c'est la contrainte que j'ai imposée à l'ensemble de nos équipes, de plus en plus de matières recyclées et recyclables au sein de nos produits.
Ça coûte plus cher ?
Bien sûr, ça coûte plus cher. Est-ce que les clients sont prêts à payer ? Pas encore. Pas encore, mais ça s'améliore. L'Europe va beaucoup plus vite que les États-Unis. Là, les États-Unis, c'est encore un petit peu compliqué pour le moment.
Alors, nous avons une question de Marianne Gérard qui a lu, elle, votre livre. Ah, vous allez voir.
Bonjour, je suis Marianne Gérard, promotion 98 et journaliste. Christophe Guérin, vous avez récemment publié un ouvrage intitulé « Pour aller dans le bon sens » et qui propose un modèle de management capable de répondre aux défis du 21e siècle. Et notamment, vous proposez donc ce modèle qui va permettre la rentabilité par la sobriété. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Merci.
Oui, en deux mots, chez Nexans, personne n'a des objectifs de croissance. On parlait du Maroc, là, justement. Au Maroc, on met en place tous les ans des objectifs de profitabilité et une réduction des quotas carbone. Donc, en fait, d'avoir cette double contrainte d'améliorer la profitabilité et de réduire son empreinte carbone sans avoir le mot croissance qui est au milieu, les oblige à trouver les clients, les produits qui vont dans le sens de cette double contrainte. Et c'est le choix qu'a fait Nexans.
Avant-dernière question, cette fois-ci, elle est posée par Jean-Baptiste Vaujour.
Bonjour Monsieur Guérin, Jean-Baptiste Vaujour, HEC 2012. Je suis enseignant et consultant, spécialiste en économie de l'énergie et de l'environnement, et récemment auteur d'un ouvrage sur la décarbonation des entreprises. Et je me permettrai justement de vous poser une question sur la stratégie de Nexans en la matière, et en particulier autour de vos câbles bas carbone, pour savoir si cette offre a vocation à devenir majoritaire dans votre portefeuille, et plus largement, comment est-ce que vous voyez la décarbonation de l'entreprise à moyen long terme?
Oui, alors sur Scope 1 et Scope 2, on est aujourd'hui, en termes de réduction d'empreinte carbone, on est à moins 33%. L'objectif, c'est moins 46% en 2030 et d'être à moins 90% d'ici 2050. Sur le Scope 3, d'être à moins 60%.
Scope 3, on le rappelle toujours, c'est effectivement les consommations de carbone des fournisseurs et des clients.
Hein, oui, alors nous on est lié aussi sur la durée de vie des câbles. Les câbles enterrés, c'est une accumulation quelque part. Ils sont là pour 30 ans, mais on voit que ceux qui sont déterrés actuellement sont enterrés depuis 55 ans. Donc, on a cet objectif-là. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, hein, 85-87% de nos câbles aluminium utilisent de l'aluminium bas carbone. On le fait la même chose sur le câble. Et l'objectif, c'est de passer en aluminium recyclé et en cuivre recyclé dans les 5 prochaines années. Mais on va démarrer dès l'année prochaine.
Et puis, il y a votre fameux ratio par unité de carbone employée.
Exactement.
Qui est assez unique. J'avais jamais entendu cela. Donc, nous avons la dernière question de Lucas Homet qui nous vient du ministère de l'écologie et qui vous demande des conseils, vous allez voir.
Bonjour Monsieur Guérin, Lucas Homé, je suis de la promotion 2024 et je suis chargé de mission au ministère de la Transition écologique. Vous savez sans doute que bon nombre d'étudiants sont engagés à HEC et dans les grandes écoles pour l'écologie et le développement durable. Vous-même, vous avez su décliner ces enjeux dans la stratégie de votre entreprise. Et j'aimerais savoir si vous auriez des conseils pour ces étudiants qui cherchent à poursuivre leur engagement une fois qu'ils auront atteint le monde professionnel.
Ah oui, bah, je pense que le devoir de dirigeant actuel, c'est de mettre les entreprises dans la bonne voie. Mais il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir résoudre tout de suite. Donc j'aime bien cette expression, l'impossible n'est que temporaire. L'impossible pour quelques dirigeants aujourd'hui, mais qui sera possible à travers la future génération de dirigeants que ces jeunes représentent. Donc à nous de les mettre dans les bonnes voies et à eux de trouver la solution. J'espère juste, par exemple, que l'intelligence artificielle sera à la réponse du défi climatique. C'est là où on a besoin d'intelligence artificielle, justement, pour faire face aux risques climatiques qui nous pendent.
Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'emplois verts possibles pour tous ces jeunes qui ont envie de travailler dans le monde de la transition écologique?
Ah oui, beaucoup. Ah oui, de plus en plus. Hein. Vous savez, il y avait ce ministère saoudien qui avait dit « L'âge de pierre s'est pas arrêté par manque de pierre. L'âge de pétrole va pas s'arrêter par manque de pétrole. » Et vous avez déjà des mouvements massifs sur le renouvelable et ça va continuer et ça crée des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui.
Vous pourriez écrire un autre livre hein, avec les meilleures citations. juste l'intelligence artificielle chez vous, par exemple, est-ce que vous travaillez déjà et qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à votre métier, par rapport à Nexans?
Sur la gestion des données. Voilà, ah oui, parce que les câbles, c'est du flux d'énergie, les câbles télécom, c'est du flux de télécom, le flux d'énergie. Donc, s'assurer que comme on ne peut pas stocker l'énergie à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est ne pas la perdre. Donc, vous ne pouvez pas contrôler la force du vent. Si vous avez des fermes qui produisent énormément d'électricité, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On essaye de faire des autoroutes d'énergie pour faire circuler ce ouais. flux d'énergie pour qu'il ne soit pas perdu.
Christopher Guérin, on arrive presque au terme de cet entretien HEC. Vous allez bientôt être libéré. Mais là, c'est la conclusion avec quelques questions toujours autour de la transition écologique et de la COP28.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Qu'est-ce que vous attendez de cette COP28? Et surtout, est-ce que ces grands-mets, ça sert à quelque chose?
Question mark, j'ai un doute. Bon, déjà, c'est quand même un moment de l'année où on remet le climat au centre du débat. Ouais, parce que
pas les compteurs à zéro, malheureusement. Mais
bon. Pas les compteurs à zéro et on voit que les solutions ne sont pas évidentes. Mais on est dans un monde en permacrise. On parle du climat, on parle de l'économique, on parle du social, on parle des risques cyber, on parle de tout. Et ça devient très, très compliqué pour beaucoup de pays dans le monde. Est-ce que j'attends quelque chose du COP28? Non, pas grand-chose. J'espère juste que, à la fois politique et entreprise vont se mettre à aller dans le bon sens pour le bien de la planète. C'est tout.
Mais comment? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez effectivement, quand on parlait des directives européennes de corporate sustainability, que c'était un ensemble de plus de 1000 indicateurs. Il faut bien quand même que l'Union réagisse et propose quelque chose. Quel serait le bon moyen de mettre effectivement la corporate sustainability au cœur des entreprises, mais de manière un petit peu plus simple qu'avec 1400 ratios de différentes formes?
Faire confiance aux entreprises. Je n'ai pas d'autre mot. Faites confiance aux entreprises.
Oui, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des critères qui soient un peu les mêmes pour tout le monde.
Bien sûr. D'ailleurs, tout ce qui est mesurable, notamment les empreintes de CO2, tout ce qui est mesurable, les déchets, pas de problème. Mais là, on commence à rentrer parfois dans des indicateurs de biodiversité où même moi, je ne sais pas comment on va les mesurer. Je suis obligé, moi, à notre échelle de Nexans, on est obligé d'embaucher 2 personnes pour remplir ces tables d'indicateurs. Vous imaginez, c'est à partir de 50 millions de chiffre d'affaires.
Pour
les petites sociétés, comment
possible.
Ils vont faire? Donc moi, j'ai juste peur. Que oui, ça va dans le bon sens, mais il faut faire attention de ne pas étouffer les entreprises par trop de régulation.
Et votre présence, justement, dans les mers, ce sujet de la biodiversité lui donne un caractère particulier. Est-ce qu'on vous demande des choses spécifiques du fait que vous travaillez au fond des océans?
Oui, on met beaucoup avec nos clients, beaucoup d'investissements sur l'aspect géophysique, hein, sur le chemin que le câble doit parcourir pour justement éviter les zones protégées, les coraux, et qu'ils soient enterrés dans des zones où il n'y a pas de problématique de biodiversité. Aujourd'hui, on met des fermes éoliennes à 150 km des côtes, justement dans des zones où il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de problématique de biodiversité.
Nous, on est partant pour aller sur votre bateau, hein, Vincent, Vincent et moi.
C'est pas un bateau de croisière. Hein.
Mais c'est pas grave, vous savez. Qu'est-ce que vous enseignez, enfin, quel enseignement fait-on à la chaire développement durable, à HEC, que vous financez? Est-ce que vous regardez? Parce que les dérives, elles peuvent exister.
En fait,
pas qu'en mer.
En fait, quand j'ai été voir Éloïc Perrache, le directeur général d'HEC, j'ai fait ma présentation sur le modèle E3. Et moi, je ne viens pas d'HEC. Je ne suis pas diplômé d'HEC. Et quand j'ai fait ma présentation, au bout d'une heure, il y a eu un très grand blanc. Je me dis, je suis passé à côté de l'exercice. Je pense que j'ai perdu mon temps, je leur ai fait perdre le leur. Et la réaction d'Éloïc, il m'a dit, non, mais je pense que tu nous as extrêmement changé parce qu'on s'aperçoit que nous, école de commerce, on est autant siloté qu'une entreprise. On a des cours formidables sur la partie financière, sur la partie sustainability, sur la partie sociale, mais il n'y a rien qui, de manière holistique, pense les trois en même temps et qui converge les priorités sur les trois indicateurs. Et c'est comme ça qu'est née la relation entre Nexans et HEC. Ouais. Et l'objectif pour moi, surtout, c'est un partage d'expérience. Et il y a des PhD, des professeurs d'HEC qui sont en train d'améliorer le modèle à l'heure actuelle.
Alors, vous dites précisément dans vos fonctions, mais dans votre réflexion aussi, que vous luttez contre des injonctions contradictoires. On a parlé tout à l'heure, par exemple, croissance et climat. Et vous avez évoqué aussi contradiction entre la nécessité du profit et l'augmentation des inégalités. Qu'est-ce qui fait que ça vous concerne, vous, en tant que chef d'entreprise ou en tant que personne?
Vous savez... On parlait de 28 000 employés, on a Vincent Bosphis, vous avez parlé de l'Ukraine. 70% de ma population sont une population ouvrière, de col bleu. Donc par exemple, moi je parle pas de télétravail, parce que 70% de nos employés tous les matins doivent se rendre sur leur lieu de travail pour faire tourner des machines. C'est comme pour les hôpitaux, c'est comme pour les supermarchés. Donc aujourd'hui, on fait un très gros travail de fond justement pour rebâtir un imaginaire industriel pour ces équipes-là, pour leur redonner un avenir positif. J'adore cette expression. Si vous permettez une petite expression.
Attendez, je prends note. J'ai déjà tout noté.
Il y a un opérateur qui nous a dit, vous savez, les managers, c'est comme les mouettes. Ça commence par la même lettre, d'ailleurs. Ça vole au-dessus de vous, ça braille et ça vous chie dessus. Donc, excusez-moi pour l'expression, mais j'ai trouvé ça formidable. Et je pense que le travail de management, justement, il se passe sur le terrain et d'écouter ces équipes qui sont tous les jours au travail.
J'avais une question, mais je pense qu'on va arrêter là, parce que là, c'est magnifique, hein, l'histoire de la mouette. Je vous laisse la répéter ensuite. Merci beaucoup, merci Christopher Guérin. On a passé une heure formidable avec vous. Vous avez réussi votre entretien à HEC. Le patron Nexans était notre invité. On se retrouve, bien sûr, le mois prochain.
Merci à vous, Christopher.
Merci.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.